Vous écoutez
RMC. La une des grandes gueules du sport.
Accélération de l'ailière tricolore, elle va aller marquer.
Ah oui.
Incroyable niveau de la part de l'ailière international qui a traversé le terrain sur cette action parfaitement mise dans l'intervalle.
Là, c'est du 50-50. On ne parle plus des 16 matchs gagnés ou perdus pour l'un ou pour l'autre. On est en forme et on est en confiance, on a hâte de jouer ce match.
Mais en avant complètement débile entre Alexandre Chabot et Mana Efeloui, me semble, ou Tainé Maka. Oh, elles vont chuter à un petit point.
Là, c'est une demi-finale de Coupe du Monde. C'est un événement qui arrive une fois tous les 4 ans, chez elles en plus. Donc forcément, ce serait une chance exceptionnelle de les battre.
C'est les Bleus qui continuent de voir l'Angleterre archi-dominer cette dernière rencontre amicale avant le début du Mondial.
Pour réussir à allier cette stratégie du match et s'appuyer sur nos armes fortes pour faire basculer la chose de notre côté. Et là, on va tout faire et on donnera tout pour que le score soit dans notre faveur.
Un message ce matin, tiens, faites-le tout simplement, les filles du 15 de France, c'est le moment que vous attendez depuis des années. Les Bleus du rugby défient l'Angleterre chez elles à domicile en demi-finale de la Coupe du Monde de rugby. Rencontre à suivre à 16h30 en direct et en intégralité sur RMC sur place à Bristol. Objectif, se qualifier pour la première finale de leur histoire. Alors oui, nos Bleus n'ont pas battu les Anglaises depuis 2018. Oui, nos Bleus sont privés de joueuses très importantes dont leur capitaine Mana Efeloui, mais c'est l'histoire d'un match qui peut faire basculer le destin d'une équipe, mais aussi d'une discipline qui galère encore trop au quotidien en France. Les EG, je vous pose la question ce matin. Oui ou non, une victoire changerait-elle tout pour le rugby féminin? Denis Charvet,
non.
Sarah Pitkowski.
Je suis plutôt sur le oui, mais c'est le tout où je... Voilà. Ça
c'est oui non oui. Quoi.
Ouais, voilà, c'est Denis Charvet quoi.
Je vais pas, tu vois.
David Douillet.
Non.
Non. Et Fred Weiss.
Non.
Ah oui, vous êtes super pessimiste.
Non, pas pessimiste.
Bah, pas du tout.
Non,
le débat, c'est ouais. Même s'il gagne, c'est-à-dire...
32-16 pour participer, WhatsApp 06-12-424-424. Pierre Thévenet et Lénaï Corson vont nous commenter cette rencontre et nous rejoindre dans les grandes gueules du sport ce matin. Bonjour les amis.
Salut à tous.
Bonjour.
Tiens, rapidement, Lénaï, juste oui ou non, une victoire changerait-elle tout pour le rugby féminin? Après, on développe. Oui ou non?
Évidemment que oui.
Évidemment. Pierre, tiens, tu as rencontré les joueuses hier. D'abord, on va présenter un petit peu les forces en présence. Dans quel état d'esprit nos Bleus abordent cette rencontre face à l'ogre anglais?
Ça a été une semaine très compliquée pour les Bleus. On le rappelle, 4 absentes de marque pour cette rencontre. 2 suspendus, Mana Efeloui, la capitaine, et Axel Berthoumieux. Et 2 blessés, Lina Kerois et Johanna Griset. Ça a été une semaine compliquée. Elles ont parlé beaucoup d'émotions, surtout en début de semaine. Il y a eu des larmes, elles se sont resserrées entre elles. C'est un peu l'Everest qui est face aux Bleus, mais elles y croient. Elles sont passées en mode mission commando cette semaine avec cet effectif un petit peu réduit. Tu l'as dit, elles n'ont pas battu l'Angleterre depuis 2018. Il n'y a que 3 joueuses qui joueront cet après-midi, qui ont déjà battu les Red Roses. Pauline Bourdon, Marine Ménager et Agathe Guérin. Mais personne ne veut s'attarder sur les 16 défaites consécutives contre les Anglaises. On a beaucoup parlé du plaisir de jouer une demi-finale en Angleterre contre la meilleure équipe du monde. Et puis les Bleues, elles sont persuadées de pouvoir les embêter. Elles les avaient embêtées lors du dernier tournoi destination. C'est une des seules équipes à réussir à titiller un peu ces Anglaises. Dans les faits, ça va être quand même très très compliqué. Les Britanniques sont sur 60 victoires sur leurs 61 derniers matchs. On pourrait penser qu'en plus elles ont tout gagné et qu'il n'y a plus d'intérêt à jouer pour elles, mais non, parce que leur seule petite défaite, c'est la finale de la dernière Coupe du Monde. Elles n'ont plus remporté de titre mondial depuis 2014, et donc là, chez elles, elles sont dans l'obligation absolue de gagner. Donc, mission très très compliquée pour nos Bleus.
Tout peut arriver. Vous savez que les Néo-Zélandaises, double championne du monde en titre, ont perdu hier face au Canada, 34-19, et c'est donc les Canadiennes qui seront en finale samedi prochain. Denis, tiens, on va commencer par toi. Donc, tu nous dis non, la victoire ne changerait pas forcément tout pour le rugby féminin.
Je reste persuadé que pour que ça change véritablement, il faudrait être champion du monde. Il faudrait gagner cette demi-finale, aller en finale et battre les Canadiens en finale. Je le pense vraiment. Je pense qu'aujourd'hui, d'abord, le rugby féminin a beaucoup évolué ces dernières années. On le voit avec l'afflux des nouvelles licenciées dans tous les clubs. Il y a un vrai engouement au niveau des filles. Ça, c'est indéniable. Ça a pris une dimension incroyable. Tu l'as vu, même les audiences que télé, il y a des pics à 4 millions pour le dernier match, ce qui est absolument invraisemblable. C'est génial. Mais après, pour le grand public, il faut un exploit. Un exploit, ça suffit pas. Là, si tu gagnes les Anglaises, c'est un exploit.
C'est déjà un exploit, oui.
Mais oui, bah, c'est oui, un exploit.
Il faut un titre pour couronner ça.
Pour marquer les esprits, il faut un titre. Si c'est champion du monde, ce qu'on n'a jamais fait dans le rugby ou dans le rugby. Ça marquera tout le monde. Et là, tu vas basculer. Tu vas aller dans une autre dimension. Mais pour moi, répondre à la question, non, ça changera pas. Ça changera pas. Ça passe.
Tu as raison. Les filles pourraient peut-être faire ce que les garçons n'ont pas réussi à faire. Effectivement, c'est un premier titre pour le 15 de France.
Ils ont déjà fait un podium alors que les garçons n'avaient pas fait de podium. Oui, je ne veux rien dire. Mais bon.
Lénaïque, toi, t'es plus positif. Tu penses qu'une victoire pourrait tout changer pour le rugby, Lénaïque Corson. En plus, ancien international. Tu sais très bien ce que ça pourrait représenter.
Ah oui, complètement. Et je rejoins Fred, on en a fait 7 des médailles de bronze en Coupe du Monde. Ça, le rugby masculin ne l'a jamais fait. Et donc forcément, demain, d'être championne du monde, ça changera tout pour le rugby féminin. Parce que vous êtes championne du monde, forcément, vous avez de la visibilité. Et alors, je parle de championne du monde, mais peut-être que j'oublie quand même le match de cet après-midi qui sera d'abord l'Angleterre. Et ce match, il va être capital. Tu gagnes les Anglaises chez elles, mais vous imaginez le cataclysme que ça va être pour le rugby anglais. Ça fait depuis déjà une décennie, 10 ans, qu'ils ont investi de l'argent comme jamais dans... Non mais bien sûr, je parle pour la France. Mais regardons l'adversaire du jour. Regardons l'adversaire du jour qui n'a pas perdu depuis 31 matchs. Dans le sport déjà, c'est énormissime ce qu'elles ont réussi à faire les Anglaises. Donc si aujourd'hui, on gagne contre une des meilleures équipes du monde, la meilleure équipe du monde... Ça serait juste énormissime pour le rugby français et forcément ça aurait de l'impact sur le nombre de licenciés, que le rugby c'est un sport pour les filles, que ça amènerait beaucoup plus de visibilité et donc l'impact serait énorme sur le rugby français.
Ça serait une victoire tellement impactante effectivement peut-être. Fred, toi t'es pas forcément d'accord.
Ben, je suis pas forcément d'accord, mais après il y a deux échelles et comme d'habitude vos questions sont très compliquées, donc j'ai envie de répondre sur les deux. Sur le premier, effectivement, pour l'équipe de France, gagner contre une équipe comme l'Angleterre qui est leur bête noire, une équipe aussi puissante, etc., ça changerait tout. Parce que d'un seul coup, on passerait à un statut différent encore. Même si on fait des podiums, pour l'instant, on veut faire un
changement.
Et
donc, tout.
En fait, tu ne m'écoutes pas du tout, Denis.
Si.
J'ai dit, il y a deux volets. Donc le premier volet,
non,
oui.
Il y a qu'un volet, non,
il y a deux. Bah non, il y a deux volets. Parce qu'il y a
est-ce que ça change tout comme ça?
Oui, ben oui, parce que moi, je comprends les questions.
Non, pas du tout.
Et donc, la question, c'est savoir si ça changerait tout. Ça changerait tout pour l'équipe de France, oui. Parce que pour eux, ça serait quelque chose d'un renouveau. Et ça serait se positionner comme un vrai prétendant. Pas seulement faire des médailles de bronze, être en finale, avoir la possibilité de gagner. Et dans ce sens-là, ça changerait tout. Mais dans l'autre volet, le volet médiatique, ça ne changerait rien. Ça ne changerait rien parce que là, on a vu qu'il y a un vrai engouement pour le rugby. On a vu que grâce à la puissance médiatique de TF1, de France Télévisions, on a énormément de visibilité. On commence à connaître les joueuses de l'équipe de France. Donc il y aurait pas d'évolution majeure.
Ça si t'es champion du monde, oui.
Oui, champion du jour. Mais
par rapport à cette victoire, tout le monde dirait c'est génial, on est content et on continuera à pouvoir regarder. Mais réellement, médiatiquement, elles ont déjà gagné. Elles sont déjà dans le cœur des Français. Les gens.
Parce que tout a déjà changé, en fait.
Tout a déjà changé. 3 400 000 personnes qui ont regardé. 4 600 000 sur la fin du match. C'est incroyable. Donc ça a déjà changé, en fait.
Ça. Oui, mais ça, c'est la culture de l'instant. On sait que
Ah, mais il faut continuer à travailler avec des gros groupes comme TF1. Il faut voir cette image. Oui, mais quand tu fais ces scores-là, Sarah, il n'y a pas trop de risques.
Non, mais attends. Il y a deux choses. Un, il y a la culture de l'instant. Deux, effectivement, il y a un engouement populaire. Mais ça ne veut pas dire que l'engouement populaire, il se reproduit dans les clubs de rugby où il y a une section féminine où on peut aller jouer au rugby. C'est deux choses différentes. Bah
alors, ça vient juste d'arriver, Sarah. Je suis d'accord. Sauf que ça vient juste d'arriver d'avoir autant de personnes qui regardent le rugby.
D'accord.
Donc ça va se répercuter forcément.
On va parler dans un instant de la Rougerie Templier à Toulouse, ce qu'est le quotidien des joueurs.
S'il y a une répercussion dans les inscriptions et dans le fait de se dire, je suis une petite fille, tiens, j'ai vu du rugby à la télé, j'ai envie d'en faire. Après, ce qu'il faut aussi comprendre pour voir si cette victoire, elle peut tout changer, c'est comment accélérer la croissance
en passant professionnel, tout simplement.
La croissance, il faut comprendre que comment elle peut évoluer sur le plan économique, parce que c'est intimement lié.
Le problème
aujourd'hui,
est là.
Oui, mais aujourd'hui, est-ce que cette visibilité et ces taux d'audimat qui sont extraordinaire. Est-ce que ça va attirer des sponsors?
Parce que, mais bien sûr, évidemment, c'est par définition.
D'ailleurs, pour information,
il y a 4 600 000 personnes qui regardent sur la fin. Évidemment qu'il y a des sponsors qui sont intéressés.
Donc, vous êtes d'accord avec moi de dire que cette victoire va quand même changer des choses s'il y a
des sponsors? Non, parce qu'il y a déjà 4 600 000.
Avant d'écouter David, Lénaïque, tu voulais rajouter quelque chose?
Lénaïque. Oui, on parlait de sponsoring, on parlait de professionnalisation. Je suis complètement d'accord avec ça. Aujourd'hui, la clé du développement du rugby français, ça va être la professionnalisation. Pour professionnaliser, il faut de l'argent. Il faut des investisseurs, il faut des sponsors. Aujourd'hui, l'Elitune, avec la fédération, a annoncé qu'un grand sponsor a été arrivé, un namer de l'Elitune, qui s'appelle maintenant AXA Elitune. Voilà, une assurance qui s'appelle AXA et qui amène...
Parce que cette visibilité, parce que c'est millions de personnes qui ont aidé aussi, c'est pas d'aujourd'hui.
C'est du travail de longue haleine.
Ça progresse encore plus, bien sûr.
Bien sûr, et Georges, juste pour rajouter un petit quelque chose, on voit déjà une augmentation des licenciés dans les clubs qui est liée aussi au travail qui est fait depuis longtemps par la Fédé. À la rentrée, la 2025, il y a 38% de licenciés filles en plus que précédemment. Ça correspond à 70 000 licenciés en France contre 52 000 il y a un an. Donc déjà, il y a une augmentation qui est là, qui est réelle. Et donc une victoire cet après-midi, évidemment, accélérerait encore un peu plus ce processus.
David, toi tu disais que pour toi, la victoire ne changerait pas forcément tout pour le rugby féminin. Pourquoi ?
Parce que l'avion a déjà décollé et il est en train de monter en altitude. On est dans une courbe ascendante du rugby féminin. Donc on pourrait changer d'altitude beaucoup plus rapidement en battant les Anglaises et en devenant après, j'espère, championne du monde. Mais pour moi, la courbe, elle est déjà amorcée. D'ailleurs, Denis l'a dit, notre journaliste l'a dit, les clubs envoient déjà les conséquences avec des nouvelles licences, etc., etc. Enfin, la pompe, elle est amorcée. Oui. C'est pour ça, c'est dans ce sens-là que je dis que ça changerait pas fondamentalement les choses. Parce que qu'elle gagne, qu'elle perde face à l'Angleterre aujourd'hui, ça va pas, demain, les filles vont pas partir des clubs. Et puis le rugby féminin va pas revenir en arrière. Ça y est, le décollage est parti. Il est parti pour moi... Très fondamentalement, enfin, il s'est vraiment envolé lors du dernier tournoi à destination. Elles font deux. Elles
battent
d'un point.
Voilà, elles se font battre d'un point. C'est ric-rac, tu vois, ça fait monter la sauce et tout. Et là, moi, je me dis que ça y est, c'est parti. Ça pourra jamais faire machine arrière. Et c'est en cela que je dis que non, ça changera pas quelque chose qui a déjà démarré. Ça peut l'accélérer, ça c'est sûr.
Non, il faut profiter de ce succès aujourd'hui. Mais c'est le vrai travail maintenant de la fédération, de la ligue, de monter une structure professionnelle.
Mais il faut concrétiser ça, évidemment.
Mais moi, je pars du principe qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément une économie. Il va falloir la chercher, la trouver. C'est pas évident.
Mais elle viendra.
On va en parler dans un instant. Lénaïque, tu voulais racheter quelque chose, tu n'es pas d'accord?
Oui, moi je pense que justement ça aura un impact et c'est pas parce qu'aujourd'hui on est dans l'élan du développement du rugby féminin qu'on peut pas repartir en arrière. Moi je vois l'Angleterre aujourd'hui qui est en train d'accélérer mes puissances 1000 et elle pour le coup je parle d'un avion qui est lancé et qui sera inarrêtable parce que ça fait déjà 10 ans qu'elles ont commencé à investir et à créer, structurer le rugby féminin en profondeur. Là pour moi le rugby français peut s'écrouler si on ne fait plus rien et si on se prend des branlées à tous les tournois destination.
Non, mais toi,
on ne parlera
plus
autant du rugby féminin tous les tournois destination.
Si tu dis ça, ça veut dire que tu sens déjà que ça avance pas normalement.
Assez vite. Je dirais que ça n'avance pas en France, mais ça avance puissance 1000 en Angleterre. Et j'ai peur que cette dualité et cette hégémonie du rugby anglais, elle soit trop forte pour que c'est un intérêt demain de suivre des crunchs si on se prend 50 points tous les hivers. Les Anglaises.
On va en parler de comment ça avance en France avec un cas concret au Stade Toulousain. C'est quoi le quotidien des joueuses par exemple? Tiens, il y a un message de Vincent sur notre WhatsApp au 06 12 424 424 nous dit oui, une victoire aurait évidemment une incidence, un impact monumental pour l'évolution du rugby face à ces équipes anglaises. Envoyez-nous vos messages et participez au 32-16 également. On revient dans un instant pour parler de ces Bleus face à l'Angleterre en Coupe du Monde de rugby. 16h30, le match à suivre sur RMC. On revient dans un instant.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
avec Lenaï Corson, qui est aujourd'hui la reine de l'antenne, notre consultante rugby, parce qu'il y a France-Angleterre à 16h30, demi-finale de la Coupe du Monde féminine de rugby en Angleterre, à suivre en intégralité sur RMC. Denis Charvet est là, David Douillet, Sarah Pitkowski, Fred Weiss. Une victoire changerait-elle tout pour le rugby féminin? C'est la question qui nous fait débattre depuis tout à l'heure. Mais c'est quoi, les amis, le rugby féminin en France au quotidien? Parce que là, on parle de la vitrine des Bleus, effectivement, alors que le quotidien n'est pas forcément le même. Wilfried Templier nous rejoint. Bonjour, chef Templier.
Salut tout le monde.
Bonjour, Wilfried.
Ah, là, on a le chef du rugby,
carrément. Ah, le chef, chef avec Chaudard. Nous.
C'est que c'est sérieux.
Tiens,
c'est
un carreau, moi.
On est à des altitudes importantes. Wilfried, tu t'es intéressé cette semaine à la vie des joueuses du Stade Toulousain. C'est le meilleur club en France. Hein, donc, et pourtant, aujourd'hui, en 2025, on peut pas dire que ce soit facile.
Un
des meilleurs.
Il y a Bordeaux.
Un des meilleurs, oui.
Bordeaux, c'est content. Le
Stade Bordeaux. Il s'est pris une balle perdue, là.
Un des meilleurs. Allez, Georges, un des meilleurs.
Un des meilleurs, tu risques rien.
Excusez-moi, c'est Wilfried qui arrive. Il est à Toulouse, c'est le chef. Je fais attention à ce qu'on dit. Il y avait Nicolas Paolo.
C'est vrai,
il passe
la pommade, c'est vrai.
C'est un des meilleurs clubs de France, le Stade Toulousain. Pourtant, aujourd'hui, en 2025, on peut pas dire que ce soit facile de vivre du rugby, même quand on joue à Toulouse, Wilfried. Hein.
Oui, même quand on porte l'écusson du Stade Toulousain. Alors, faut de suite savoir qu'en France, il y a 30 joueuses internationales qui sont sous contrat fédéraux, prises en charge, comme son nom l'indique, par la FFR. Sachez qu'elles gagnent entre 2500 et 3800 euros par mois, selon les pédigrés, on va dire. Il y en a 6 à Toulouse, 4 sont actuellement à la Coupe du Monde. Et dans le reste du groupe, au Stade Toulousain, 14 autres bénéficient aujourd'hui d'une rétribution régulière. J'ai du mal à parler de contrat, je dis rétribution parce qu'elles touchent entre 100 et 400 euros par mois. Ouais. Plus des primes de match de 100 euros pour tout le monde, mais surtout pour celles qui jouent, évidemment. Donc certaines ne touchent rien. Il y a des joueuses en réserve, entre guillemets. Bref, quand on est dans l'amateurisme, n'ayons pas peur des mots. La talonneuse du Stade Toulousain, Laure Touillet, le confirme.
Tout le monde pense que c'est professionnel, mais c'est vraiment encore considéré comme du rugby amateur. C'est dur, et puis quand t'es dedans, t'as envie que les choses avancent beaucoup plus vite que ça, quoi. Parce que t'as l'impression que t'es en retard tout le temps. Et encore une fois, en fait, on nous demande de plus en plus de s'entraîner, mais les moyens sont pas forcément mis à disposition pour qu'on puisse s'entraîner et être au mieux de nos capacités à nous. Parce qu'encore une fois, tu dois travailler toute la journée, finalement.
Donc la majorité de ces filles, elles travaillent, évidemment. Leur chance tout de même à Toulouse, c'est que le club prend en charge 20% de leur salaire en entreprise pour qu'elles soient libérées deux demi-journées dans la semaine, les mardis après-midi et les jeudis matin. Ça évite qu'elles s'entraînent tous les soirs jusqu'à 21h, 22h. Ça, pour elles, c'est juste le lundi et le vendredi. Mais dans d'autres clubs moins huppés, entre guillemets, c'est entraînement tous les soirs, comme ça, après une journée de travail. À Toulouse, il y a quelqu'un qui connaît bien ces problématiques, quelqu'un que connaît bien les Naïcs, c'est Céline Ferrer, ancienne deuxième ligne, 60 sélections, elle est maintenant coach. Pour elle, les choses pourraient aller plus vite.
J'ai quand même là la sensation que ça stagne un petit peu, bien sûr qu'il y a eu de l'évolution, et là j'ai la sensation que ça commence un petit peu à stagner. Ouais. C'est une bataille qui est éternelle, et cette bataille, on a la sensation en tout cas de devoir la mener, et aussi d'être obligé, entre guillemets, pour gagner les choses, d'avoir du résultat.
Alors bien sûr, vous l'avez dit, les Bleus battent des records d'audience à la Coupe du Monde, 4,6 millions de téléspectateurs dimanche dernier en fin de match, Canal Plus a diffusé quelques matchs la saison passée, la Fédération Française du Rugby vient de présenter un nouveau sponsor pour le championnat d'élite, ça va s'appeler AXA Elite 1, AXA pour pas le nommer évidemment, et ça va distribuer de l'argent au club. La Fédé a un plan pour doubler et le nombre de licenciés et le budget des clubs d'ici 2 ans, c'est la priorité du président Florian Grille, de professionnaliser à terme toutes les filles de l'élite, mais vous l'avez bien compris, il faut des sous, et ça sera long, et la bataille est loin d'être gagné.
Merci Wilfried. 52 000 licenciés, on lisait le rugby féminin, plus 35% cette année. Objectif de la Fédé, c'est 100 000 licenciés d'ici 2 ans.
Oui, exactement. Ouais. Donc ça va être compliqué. Mais déjà, si tu arrives à réussir ça, moi je trouve ça magnifique déjà, parce que Wilfried l'a expliqué, quand t'as autant de personnes devant l'écran, forcément, ça crée des vocations, ça donne des envies. Mais moi, ma question à Wilfried ou après, celui qui peut me répondre, c'est de savoir comment tu fais pour capitaliser quand t'as eu autant de retombées médiatiques, c'est-à-dire quand on t'a autant regardé, comment tu capitalises sur ça?
Mais capitaliser,
Il faut des annonceurs.
Comment tu les trouves? Est-ce que tu peux pas aller voir des marques et leur expliquer?
Mais ça suffit
voilà,
pas.
Voilà ce qu'on a fait comme chiffre.
Mais ça suffit pas.
Oui, mais j'imagine okay, que si. Mais très bien. Non. Mais voilà ce qu'on a fait. Mais comment t'es sûr de leur proposer quelque chose que tu vas
sur
faire
le long terme.
Parce que un partenaire, il est pas là pour sponsoriser ce que tu as fait.
Par définition, dans le sport, tu peux pas prévoir ce qui va se passer. C'est impossible.
Si tu peux imaginer ce qui va se passer,
tu peux pas prévoir.
Mais quand tu t'associes à une équipe de France d'un sport, tu vends aussi un palmarès de ton équipe de France et un certain nombre de matchs et des stades remplis et des droits déjà assurés. Ce que je veux dire, c'est que là, ce qui est compliqué, c'est que c'est un pari que des partenaires doivent faire. Et aujourd'hui, n'importe quel partenaire, ils veulent un retour sur investissement. David. Ils sont pas là pour développer un sport. Ils sont là pour
Le truc, c'est qu'il y a une base, en fait, quand même.
Et oui. David.
Non, mais je voulais répondre à Sarah. L'équipe de France va émettre des ondes positives de par leurs résultats. Mais c'est pas ça qui va faire tourner, qui va faire évoluer en réalité le rugby féminin.
Bien sûr.
Le rugby féminin va évoluer par son championnat, interne.
C'est une évidence.
Tu vois? Non. Voilà. Donc, c'est une augmentation du nombre des licences, c'est une augmentation du niveau, et c'est une structuration dans chaque club pour créer un feuilleton. Comme il existe,
mais tu sais,
ce feuilleton qui va permettre à des sponsors d'être là sur le long terme, dans des clubs, dans chaque club.
Il faut qu'on les voit, David.
Mais oui,
il y a aussi quelques matchs d'analyse, mais il faut qu'on les voit à la télé.
La vraie problématique,
je parlais. Si j'ai utilisé le mot feuilleton, c'est pas pour rien. Tu vois, c'est le feuilleton, c'est la série. Et donc, si on parle de série, ça veut dire qu'il y a un niveau, il y a un attrait, et donc il y a une récurrence. C'est la récurrence qui va faire évoluer.
Mais moi, je suis pas sûr qu'aujourd'hui tous les clubs soient prêts à accueillir 35% chaque année de licenciés, de nouvelles licenciées.
C'est là où la Fédé doit jouer un rôle important.
Je vais plus loin. Je dis, mais comment tu fais dans ta structure? Comment tu fais pour les accueillir? Comment tu mets tout ça en place? C'est de l'argent. Ça coûte de l'argent au club.
Mais c'est un travail de longue haleine.
Non,
c'est un travail de longue haleine.
Oui,
d'un coup décréter que tu vas exploser. C'est pas possible.
Non, mais moi, je voudrais juste.
Là où je suis pas d'accord avec Sarah, forcément, c'est que c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Il y a une prise de risque sur l'annonceur, sur le partenariat. Forcément. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une vraie envie d'aller les suivre, de les accompagner. Mais sauf que c'est l'équipe de France. On parle d'équipe de France. Mais les clubs, c'est une autre histoire.
Les Naïgs.
Et c'est un feuilleton, comme dit
les Naïgs. Je connais bien. Je vais vous parler d'un championnat où j'ai joué, qui s'appelle la Premiership, qui est le premier championnat professionnel dans le monde. En 2016, ils font un effet d'annonce. La Premiership anglaise va devenir la première ligue professionnelle dans le monde. 2016. On entend tout ça. On est tous, putain, qu'est-ce qu'ils vont nous faire les Anglais? On a trop envie d'aller jouer là-bas. 2017, l'année d'après, ils demandent au club de faire des dossiers de candidature pour arriver dans l'élite. Donc, c'est comme si demain, il n'y avait plus d'élite une et on disait, pour rentrer dans l'élite une, vous allez devoir remplir un cahier des charges, avoir des infrastructures, avoir des ressources humaines, avoir un budget. Et après, on verra si vous êtes éligible pour rester en élitine ou non. Donc, ce qui fait que derrière, vous appuyez sur au moins des clubs qui sont structurés, qui sont prêts à mettre le paquet sur le rugby féminin et qui sont dans la place. Derrière, ils ont été chercher un Neymar, Tyrell, les chips de légumes que vous connaissez peut-être, ouais. Tyrells. Ils ont investi quasiment 2,5 millions sur 3 ans. Ils se sont dit, en 2017, on va investir plus de 2,5 millions qu'on va injecter au fur et à mesure dans la Ligue. Donc nous, pareil, en tant que Françaises, on voit ça en 2017. Nous, on n'était pas pro, enfin, on commençait à l'être avec le 7. Aucune joueuse en équipe de France ne l'était. C'est en 2018 qu'elle commence à devenir pro. Ensuite, ils se sont dit, on va resserrer le championnat. Donc, ils ont jamais fait des dingueries comme nous, on l'a pu le faire, où on est passé à 16 équipes. On jouait pas toutes les équipes du championnat. C'était illisible. Un coup, c'était 16 équipes, c'était 14, c'était 12, c'est 10. Bon. Tous les ans, ça changeait de formule. Là, eux, très clair. On veut entre 8 ou 10 équipes. Et ça changera pas. Et tu joues les meilleurs du monde puisque tu attires derrière des Australiennes, des Canadiennes, évidemment toutes les internationales anglaises qui restent.
Donc il faut repenser tout le championnat de France, c'est ça que tu veux dire?
Moi, j'ai joué un club au Harlequins où il y avait 25 internationales. Au Stade Français, j'avais ma place tous les week-ends. Là, j'étais en concurrence tous les week-ends. Donc forcément, vous jouez. On parlait de récurrence. Tous les week-ends, je jouais des matchs de très haut niveau. Et c'est pas ce qui arrive aujourd'hui dans l'élite une. Aujourd'hui, on a effectivement 35 joueuses qui sont sous contrat professionnel, mais on joue pas à égalité. Les autres, elles sont complètement amateurs.
Ça, il faut trouver l'argent.
Elles gagnent entre 100 et 400 balles.
Les naïfs t'expliquent.
Il faut gagner. Mais il faut trouver l'argent. Mais comment on va le trouver? Il faut le marketer. Il faut le vendre. Aujourd'hui, on passe sur Canal+.
Ils l'ont fait à l'inverse. Les naïfs.
Il faut les Anglais l'ont fait à l'inverse de ce que nous on fait. C'est-à-dire que ils ont demandé à des clubs de se structurer. Et après, avec des projets, ils sont allés voir des partenaires. Je vais vous prendre l'exemple.
Ça marcherait pas en France.
Du foot féminin. On a voulu vendre un super championnat de foot féminin français. Il y a un Neymar. Et pour autant, ils percent pas ce championnat. Ce feuilletonnage, on le voit pas, ça n'intéresse pas, les stades sont vides.
Mais ça veut dire que c'est une ligue privée? Ça veut dire que c'est une ligue privée en Angleterre? C'est-à-dire que personne ne peut rentrer dans cette ligue? C'est-à-dire que tu étais 8-10
C'est la RFU qui gère ça. Donc c'est la fédération qui gère cette ligue et qui injecte elle-même de l'argent. Mais en fait, tout pour jouer aux Harlequins aussi. Moi, j'ai eu le DG des Harlequins, donc des garçons et des filles, enfin du club et de l'entité Harlequins. Ça, c'est important de le dire parce qu'en France, c'est pas tout à fait le cas. Il y a le club, la SASP, le club de Top 14, et l'association. Donc, par exemple, au Stade français, moi, je voyais bien la différence entre l'ASSO et la SASP. Et c'était pas du tout on trouvait pas de lien entre ces deux entités. Là-bas, il y a un lien. Moi, j'ai le DG des Harlequins qui est venu me présenter le budget qu'il allait mettre pour la saison prochaine sur les filles. Et donc, vous vous rendez compte, on était complètement en lien avec finalement la philosophie et la vision des Harlequins. Et on savait où allait être mis l'argent, comment les Harlequins injectaient aussi de l'argent pour la professionnalisation du club.
Il faut peut-être repenser effectivement le système. Et est-ce qu'une victoire changerait tout pour le rugby féminin aujourd'hui? C'est la question qu'on se pose et qui nous passionne ce matin. Tiens, rapidement pour conclure, on va quand même dire un mot de sportif. Hein. France-Angleterre, donc 16h30 à suivre avec les Naïgs et avec Pierre Thévenet à Bristol sur RMC. Je voulais quand même qu'on écoute le sélectionneur David Ortiz nous parler de cette confrontation. Je rappelle, on reste sur 16 défaites consécutives face aux Anglaises et pourquoi pas aujourd'hui.
Aujourd'hui, il n'y a aucune statistique qui nous donne favori. Aujourd'hui, on est face quand même à une équipe qui a beaucoup d'expérience collective, mais je pense que nous aussi, on est peut-être une des seules équipes à les avoir fait un peu déjouer, à être arrivé juste à un petit point du score au tournoi dernier. Je crois qu'on est capable de les faire douter. Je crois qu'elles nous apprennent énormément là-dessus, à nous de pouvoir jouer notre carte à fond et faire en sorte que le match ne se réalise pas comme elles ont prévu.
Ben voilà, bon, on a les armes, les Naïgs, peut-être un petit mot rapide que sur ce match quand même. La France, c'est l'antidote contre l'Angleterre peut-être.
On est l'équipe en tout cas qui chahute le plus l'Angleterre.
Mais
et
oui.
On l'a vu au tournoi Destination où on a perdu et échoué d'un point. C'est vrai qu'elles ont peu été chahutées comme ça ces 4 dernières années.
Sur leurs 31 victoires consécutives, il n'y a que les Bleus qui ont réussi à finir à moins de 7 points, deux fois de suite. Donc voilà, on est les seuls à réussir un petit peu les titiller en tout cas.
France-Angleterre, 16h30, demi-finale de la Coupe du Monde féminine de rugby. C'est l'événement de la journée sur AMC. On ne ratera rien avec vous. On va vibrer, j'espère, avec vous, les Naïgs et Pierre. Vous avez vibré,
bien
non
sûr.
Franchement,
vous
avez
envoyé évidemment, des peur, évidemment.
Allez, merci, évidemment. On continue de parler du rugby féminin. On remercie Wilfried Templier également pour cet éclairage sur le Stade Toulousain et sur le quotidien des joueuses du rugby. On espère vous avoir donné le plus d'éléments possible pour comprendre ce qu'est le rugby féminin en France.